Il n'y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat.
Pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le lundi 11 avril, il est 8h30, bienvenue sur Bartas. Ce matin, nous ne parlerons pas des résultats de l'élection, enfin presque pas, n'hésitez pas si vous voulez entendre ce qu'il se dit, de changer de station, toutes les autres radios sont en boucle là-dessus. Ce matin, tout autre chose et c'est très bien comme ça, pour nous ça fait du bien. Petit point personnel, j'étais malade la semaine dernière et vive mes collègues, c'est Véro qui a reçu Guillaume et Maëlie de la Nouvelle Dimension pour parler du festival. Festival Vue du Québec, et oui, c'est le joli nouveau nom du festival 48 images secondes. Et c'est quand même vachement cool. Je remercie mais vraiment beaucoup Véro d'avoir fait l'interview à ma place. Et en deuxième partie d'émission, nous serons avec JBD, Jean-Baptiste Diaz, qui fait l'émission Polémix et la voix off le jeudi matin à 11h sur nos ondes. Il est évidemment un peu révolté et un peu désabusé, on l'écoutera tout à l'heure. Il y aura de la musique comme d'hab, aujourd'hui c'est André Mainviel, tiens ça change. Et on commence évidemment par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Alors que le GIEC vient d'achever la publication de son sixième rapport et que l'État a récemment été condamné deux fois par la justice pour carence fautive dans la lutte contre le réchauffement global, aucun territoire français n'est aujourd'hui épargné par les dérèglements climatiques et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Plus politique que les précédents, ce rapport fait état des solutions possibles pour atténuer le changement climatique. Mais possible ne veut pas dire probable, loin de là. Pour la première fois, le GIEC liste les solutions possibles pour limiter le réchauffement climatique à 2 voire 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Si on poursuit la trajectoire actuelle, c'est 4 degrés de plus qu'il y aura par rapport à 1850, période de pré-industrielle de référence. Pour ne pas en arriver là, il faut limiter nos émissions de 45% d'ici 2030, 6% par an. On sait dorénavant ce que cela veut dire, puisqu'en 2020, année de confinement répété, les émissions de gaz à effet de serre ont chuté de 5,8%, avant de repartir évidemment immédiatement après. Il reste 3 ans, nous dit le GIEC, 3 ans à l'humanité pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre, sinon le monde d'après sera un monde invivable. Il l'est déjà en partie pour des millions de déplacés climatiques. On estime à 20 millions de personnes qui ont été déplacées en 2020 à cause d'événements climatiques extrêmes, 3 fois le nombre de personnes déplacées par les guerres et les conflits. On ne parlera pas du résultat des élections de dimanche, non, une chose est sûre, c'est qu'il va falloir que ça bouge au niveau des décisions à prendre pour lutter contre ce dérèglement climatique. De quoi vont-ils parler pourtant ? Ah oui, de pouvoir d'achat et d'immigration, sans doute fatigant. André Mainviel, La vie d'ici-bas.
Ainsi va la vie d'ici, la vie est là d'ici-bas. Elle débat et batterie les premiers pas dansés à devant des écoliers. Balancé dans l'air, sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fin de nuit d'abus du soufflet qui s'étirait, rissait mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques époques aussi va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous donc, dis, dans des mots doux, oh, dis des iris, si efficace est ta passé. Sur ton attendez-moi, tu touches à tout, j'ai voulu passer là, j'ai là du bout des doigts, d'aussi le songe à si tu médites des fois, tu fasses firmement une note cassée. Casser, on n'est plus jamais dans la scène, la musique a fini, mélodie qui vit, et fine la basse en balai, casser la balade dans l'horizon. Sur ton attendez-moi, tu touches à tout, j'ai voulu passer là, j'ai là du bout des doigts, d'aussi le songe à si tu médites des fois, tu fasses firmement une note cassée. Casser, on n'est plus jamais dans la scène, la musique a fini, mélodie qui vit, et fine la basse en balai, casser la balade dans l'horizon. Ainsi va lui battre la vie ça va, tu l'as dit. Au bal aussi, c'est là que t'as tout vu passer, le passé dépaysé. Vas-y, l'évasif, vas-y, l'enfant, tout petit déjà. Jadis, on l'a dit, mais il a la caisse, comme des oublis, la passe, Koumako. Et si c'était dommage, pas si c'est un hommage. Aux hommes assis devant, vu de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le, nous donc, dis, dans des mots doux, oh, dis des iris, si efficace est ta passé. Et si loneliness disparaît tout. T'andrai come bec, qu'un desir ambitioso, assurément libera, tu dell'anima sauvage, la causes, come te la hater, t'abogo. oh voilà, tu que truc, tu que traca, tu que toca, tu que riga, tu que raca, tu que rigue, ragunana, bebe mille cop petite cavourut. Et une fois de copa, tu que truc, tu que taca, tu que toca, tu que riga, tu que raca, tu que rigue, ragunana, bebe mille cop Un cop, du scop, avec du barbu. Libérem toute l'animal sauvage la cause pour m'entraîner à hater. Parce que tu n'es pas d'avis, à ton avis ça se vit. Puis t'as l'hésitation qui va faire éclater le banc des ateliers. Balancé dans l'air, sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fond de nuit d'abus du soufflé, il s'est tiré, il s'est pensé le temps du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit. Les pics et pocs aussi va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous dans l'île, dans des mondes où on nous désire ici. Et puis cassez ta pampasse, et si tu vas nous à ton droit.
Nous sommes en plateau avec Guillaume et Maëlie. Bonjour Maëlie.
Bonjour Véro.
Bonjour Guillaume.
Bonjour Véro.
Bon, donc vous n'avez pas l'habitude de m'entendre, donc voilà, vous m'excuserez si je faut être tolérant aujourd'hui. Donc ça commence mercredi et c'est jusque dimanche 17 avril. C'est le festival 48 images secondes qui devient Vue du Québec. Le festival de cinéma de Florac. Merci donc d'être avec nous. C'est en 2013 qu'est né ce nom de 48 images secondes et presque 10 ans plus tard, vous changez de nom. La question est assez simple. Pourquoi?
Ah, pourquoi pour être plus clair, tout simplement, Festival 48 images secondes, qui était déjà un deuxième nom à l'événement, puisque les quatre premières années, ça s'appelait autrement. Et puis, ça commence à être difficile d'expliquer, enfin, c'était très long d'expliquer que le Festival 48 images secondes, rendez-vous avec le cinéma québécois et la francophonie, parlait de cinéma québécois chaque année. Donc, il y avait l'envie de, à la fois d'être plus clair pour le public, mais aussi pour les partenaires, qu'ils soient en France ou au Québec. Et donc, Vue du Québec, c'était beaucoup plus efficace. Festival de cinéma de Florac, ça aussi, c'était important qu'on le rajoute, parce qu'on a un partenariat avec la ville de Florac, et donc, on voulait que ça apparaisse tout de suite, plutôt que de simplement indiquer la situation géographique, mais de l'appeler comme ça. Et puis après, le dernier élément, c'est qu'on a, avec le développement de notre plateforme Mon Cinéma Québécois en France, de fait de changer de nom, ça nous a permis de recentrer le site internet du festival sur la plateforme, et de faire d'une pierre deux coups, et on ne travaille pas deux fois sur deux sites différents. Donc voilà, c'était vraiment dans un souci de simplification et de clarté par rapport à nos partenaires, à notre public, à la presse qui nous demandait chaque année pourquoi est-ce que vous allez faire du cinéma québécois ? Maintenant, oui, on l'a chaque année.
Et peut-être une petite explication sur le choix du nom, puisque vu en fait au Québec, c'est aussi un mot qui désigne les films. Une vue, c'est un film.
Les films qu'on va voir au cinéma, voilà. Ouais. Donc aller aux vues, c'est une expression qui est maintenant moins utilisée aujourd'hui, mais qui de temps en temps est utilisée pour se rappeler qu'on allait au cinéma. Donc il y a quand même un clin d'œil avec le cinéma québécois, oui.
D'accord. Évidemment, donc on peut refaire un petit point sur l'année dernière, année un petit peu particulière. Vous avez fait une formule en visio, puis en octobre en présentiel. C'est quoi votre bilan pour 2021 ?
C'était correct. Correct d'un point de vue fréquentation, parce qu'on a évidemment une baisse, mais ça c'était attendu. Ça a baissé de 25%, ce qui n'était pas catastrophique. Et après, ça nous a permis surtout d'exercer le volet visio qui a permis de lancer le ciné-club en ligne. Donc on va refaire... Cette année, on va pouvoir avoir une édition en ligne aussi du festival, mais de manière techniquement très simplifiée pour nous, parce que maintenant, on a tous les outils, on sait faire. Ouais. Et puis après, d'un point de vue de la partie grand public, En salle, je dirais que même si ça a été complexe à mettre en place, parce que ça s'est fait vraiment en dernière minute, en fin d'été, etc. Disons que ça s'est fait et ça a permis de commencer à renouer avec le public. Et c'est ça qui est plus compliqué quand t'es pas là pendant 2 ans. Ouais. On en parlait récemment lors de notre AG. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à Florac depuis les 2 dernières années qui connaissent pas du tout le festival. Donc de faire cette demi-édition en salle, ça a permis aussi à une partie du public, qu'on espère être présent dès mercredi, de se dire, bah tiens, il y a un festival et puis maintenant on va montrer la formule qu'on espère habituelle, enfin on l'espère par rapport au public. Après, au niveau des invités, on va le voir et ouais. Les films, on reprend ce qu'on avait en 2019.
Mais ce qui est bien, c'est que même s'il y avait un peu moins de public en salle, il y avait toujours des invités, des cinéastes québécois et qui étaient super contents d'être là et il y avait une super ambiance autour du festival quand même.
Qui est restée malgré tout. Mmh. Ouais. Eh bien, donc ça y est, c'est le festival qui commence la semaine prochaine. Et quelle bonne nouvelle! La dernière, nous étions dans la région du Séguenais. Alors, où est-ce qu'on part cette année?
Alors là, on part dans le Bas-Saint-Laurent. Le Bas-Saint-Laurent, qui est une région du Québec qui est située, grosso modo, entre la ville de Québec et la Gaspésie, qui est le dernier bastion québécois à l'est. Donc, on est le long du fleuve Saint-Laurent, et avec des villes comme Rimouski, avec Rivière-du-Loup. Trois pistoles, pour des gens qui seraient peut-être déjà allés au Québec, ça pourrait leur évoquer quelque chose. Et puis l'idée, c'était à la fois d'un point de vue paysager, de montrer un petit peu des choses. Donc on a plusieurs films, courts-métrages, etc. qui vont montrer à l'image à quoi ressemble le Bas-Saint-Laurent. Mais on a aussi des invités qui viennent de cette région-là, qui est une région assez rurale, entre le côté fleuve avec un gros volet tourné vers que ça soit la pêche pour le côté industriel ou pour le tourisme nautique, et puis de l'autre côté c'est des champs, des plaines, des forêts, mais avec aussi des problématiques, des spécificités qu'on va pouvoir qui vont faire écho à notre région. Donc voilà, c'était avant tout l'idée de choisir une région, et puis ensuite ça a permis de mettre en avant comment ils abordent le cinéma avec une école documentaire, avec des courts-métrages qui ont été tournés, des longs-métrages, et puis des différentes structures dont Par à l'œil, par exemple, dont le directeur sera présent, qui travaille dans cette région. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en avant tout ce qui se fait autour du cinéma en région, ce qu'on appelle en région, comme nous on dirait en province, mmh. et que tout se fait pas à Montréal, et de montrer qu'il y a beaucoup d'initiatives.
Ok. Ça, j'y enlèverai, mais les trois pistoles, il y a de la bonne bière.
Voilà.
Je la connais, celle-là. Alors, il me semble qu'il y a une compétition depuis 2018, et cette année, la compétition fait son retour. Vous avez lancé un appel pour trouver le jury, pour décerner le prix du public. Est-ce que ça y est, le jury est au complet ?
À peu près. Alors, il y a deux choses dans la compétition. En fait, il y a deux compétitions. Il y a une compétition de court-métrage qui, elle, existe depuis 2018, qui fait son retour, effectivement, où là, le jury est un jury professionnel. Et puis, donc là, c'est une séance qui est gratuite, qui marche très bien. C'est de loin la meilleure séance du festival après la soirée d'ouverture. Déjà, elle est gratuite, le samedi à 18h. Mais en plus, les gens sont toujours très contents de pouvoir voir des courts-métrages et de voter pour leur film préféré. Donc ça, c'est il y a un prix du public, il y a un prix du jury. Et puis après, là, ce qui est nouveau, par contre, c'est une compétition sur les longs-métrages. Et pour éviter de se retrouver à mettre en compétition des films québécois entre eux devant un jury professionnel, l'idée c'était plutôt de faire un prix du public. Mmh. Alors pas toute la salle, ça obligerait tout le monde à voir tous les films, ce qui serait super sur le papier, mais difficile à mettre en œuvre, ouais. Je pense, au niveau des emplois du temps de chacun. Donc l'idée c'est, on a fait un appel effectivement à candidature pour trouver un jury des membres non professionnels qui ont envie de regarder tous les films en compétition. Il y en a 8. Et donc ils s'engagent à voir les films en salle, ensemble, et puis le dimanche matin, ils vont délibérer pour remettre un prix sur les longs-métrages à la soirée de clôture, qui sera le premier prix du public. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un regard professionnel qui va être porté sur des films, et que pour le ou la cinéaste qui va remporter, ça veut dire qu'il y a un regard du public qui est fidèle à Florac, fidèle ou pas d'ailleurs, parce que dans le jury, il y a des gens qui connaissent pas le festival, il y a des gens qui le connaissent déjà. Et donc ça va permettre de souvent c'est des prix qui ont, je veux pas dire plus de valeur, mais qui ont une
signification.
Ouais, une signification qui plaît beaucoup aux cinéastes. Et donc on va voir, là c'est un essai cette année. Puis si ça marche, bah forcément on le recommencera, et après on verra petit à petit si on a besoin de développer un jury professionnel aussi. Mais de là, ça sous-entend, c'est quoi l'intérêt de remettre des prix à des films aussi.
Donc les longs métrages, c'est toute la semaine, enfin les 4 jours, les 5
ouais,
jours.
Du mercredi au samedi soir.
Le court métrage, c'est que le...
Que le samedi à 18h, ouais. Il y a une seule séance, voilà. Avec 6 films.
Mais il y a d'autres séances de court métrage, ouais, qui ne font pas partie de la compétition, mais pour les gens qui adorent les courts métrages, il y a plein d'occasions toute la semaine d'en voir. Ouais.
D'accord. Et c'est ce qui fait le charme du festival, évidemment, pardon, il y a entre 10 et 15 invités cette année, on ne va pas pouvoir citer tout le monde, mais quelques-uns, et surtout quelqu'une, vous recevez Monia Choukri, qui est là pour son deuxième long-métrage, Babysitter.
Oui, là c'était, à la fois, on est assez content de ce qu'on a réussi à faire, parce que c'est pas toujours évident de se placer sur une tournée d'avant-première en fait du film. Le film sort le 27 avril en France. Là ça a fonctionné. Il faut quand même avoir que le distributeur soit satisfait, mais en plus de ça il faut avoir un invité pour nous, et on sait que c'est compliqué de venir à Florac, donc là on a réussi à convaincre Monia Choukri de venir. Ça a été quand même complexe, parce que pour les gens qui vont avoir le programme en main, ils vont s'apercevoir que le film a changé de jour, parce qu'on a on préférait qu'elle soit présente, elle ne l'était plus le mercredi. Et donc Monia Choukri, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est son deuxième film, son premier c'est La femme de mon frère, qui a été primé prix de la presse, je crois, au Festival de Cannes, sur une des sélections parallèles en 2019. C'est une des actrices de Xavier Dolan. Elle joue dans Les Amours Imaginaires. Pour les gens qui ont vu le film, elle joue la femme, qui joue le trio amoureux, qui est dans ce trio amoureux. Et puis c'est quelqu'un qui fait beaucoup de films en tant qu'actrice ou réalisatrice. C'est une des personnes pour lesquelles on est assez content d'avoir réussi à la faire venir. Évidemment, on est content de tous les autres, mais quand les gens sont pas en tournage ou pas en tournée, c'est plus facile de les faire venir, donc on prévoit les choses à l'avance, puis ils sont toujours très contents d'être invités à Florac, donc évidemment il y en a d'autres.
Il y a Nicolas Paquet.
Nicolas Paquet, oui, voilà.
Alors, Paquette, pardon.
C'est surtout par lui que démarrait cette thématique sur le bassin Laurent, parce qu'il est originaire de cette région-là. Nicolas, on se connaît depuis 2016. On se rencontre chaque année, puis chaque année, il me demande quand est-ce qu'on va mettre le bassin Laurent à l'honneur. Donc ça allait arriver. Et lui, il est cinéaste documentaire. Et puis, on lui a donné un statut un peu particulier de programmateur invité cette année, puisque c'est lui qui a fait la programmation de tout ce qui concerne les films du bassin Laurent. Et puis il vient pour plein de choses, Nicolas, il vient rencontrer des collégiens à Supagro dans le cadre des Cordées de la Réussite, il vient animer un stage de réalisation, Mali va en parler je pense juste après, on l'envoie au Vigan même rencontrer le public, et il vient programmer trois films, deux longs métrages et un court métrage, donc il va être présent tout le temps, et ça va être un des invités principaux en termes de présence. Et ouais, peut-être tu peux toucher deux mots de ce stage.
Nicolas, j'ai l'impression de commencer à le connaître avant même de l'avoir rencontré, vu qu'on échange avec lui et donc les ados du Club Scénario le mercredi après-midi au foyer rural depuis un mois et demi maintenant. On se retrouve tous les mercredis pour essayer d'écrire un peu comme ça à distance ensemble un film documentaire qui se passerait à Florac. D'accord. Et donc là, on est en train de terminer cette écriture qui parlerait de cette question, quelle est la bonne vitesse pour apprécier la nature. Et donc le tournage aura lieu le mercredi 13 avril. De 14h à 17h, puis continuera le samedi et le dimanche, le matin de 10h à midi et l'après-midi de 14h à 16h.
D'accord.
Et donc tous les ados qui ont envie de participer au tournage, de découvrir comment est-ce qu'on fait un documentaire, comment est-ce qu'on réfléchit à quel plan on a envie de tourner pour exprimer telle question autour de la nature, de toucher une caméra, des micros, sont les bienvenus.
Et voilà. C'est un documentaire qu'on pourra voir nous ensuite.
Exactement, oui, tout à fait.
D'accord. Il y a également les Alchimistes qui seront là aussi, en présence de Timothée Donnay, c'est toujours bon. Pour ceux qui ne savent pas, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que les Alchimistes.
Alors, les Alchimistes, c'est un distributeur cinéma français. Timothée était déjà venu quand on avait programmé en 2019 le... j'ai un trou de mémoire, mais ça me reviendra. Il était déjà venu, donc
Antigone. Voilà.
C'était le film de Maxime Giroux qui s'appelle Le Déserteur, voilà. Et donc c'est, on peut pas dire un habitué du festival, mais presque, parce que les invités reviennent pas toujours. Et surtout, on se connaît depuis ce moment-là, puisque les Alchimistes c'est le principal distributeur français de films québécois. Ils ont sorti Quessipan, La Déesse des Mouches à Feu, Antigone, Le Déserteur. C'est pas forcément des titres qui vont parler au public, mais c'est des titres qui ont le mérite d'être sortis en France, de sortir aussi en DVD ou en VOD. Là, ils ont sorti récemment Souterrain, qu'on va programmer. C'est pour ça qu'on les a réinvités. Et voilà, ils commencent à se faire une spécialité du cinéma québécois. Et grâce à eux, il y a du film québécois dans les salles. Donc voilà, pour ça, c'est pour nous, c'est indispensable de les inviter. Ouais.
Et bien sûr, un qui a aussi l'habitude d'être là, c'est Daniel Racine, qui sera présent aussi pour cette édition. Vous pourrez retrouver tous les invités sur cinémaquébécois.fr, parce que vous avez tout regroupé sur la plateforme en ligne et le festival sur la même page. C'est ce que tu disais tout à l'heure.
C'est ça.
Alors, la programmation, elle est comme d'habitude super dense. Là encore, comme on le disait, on ne va pas encore tout citer pour les films. Une chose est sûre, ça commence à Supagro ce mercredi et vous refaites un Tintamarre qui avait bien marché il y a 3 ans.
Oui. On va espérer qu'il pleuve pas trop, mais en tout cas, l'idée c'était surtout de déplacer ce Tintamarre qui avait été mis il y a 3 ans avant le concert de Sean Ferguson. Et puis et là, on l'a fait à la soirée d'ouverture. Donc ça va permettre de démarrer le festival en fanfare et en bruit.
En bruit.
Et pour aller à la Jeunette Verte pour un film qui s'appelle Le Bruit des Moteurs. Donc on va changer de type de bruit. Mais voilà, l'idée, c'est toujours ça, c'est d'essayer de travailler avec les associations locales aussi, de comment leur donner une visibilité dans le festival s'il y a une évidence. Et puis de faire en sorte que les associations locales puissent aussi découvrir le festival à leur manière. Donc là, il y a à la fois le bateau caillou des petits cailloux, mais aussi les gens de la soupe qui avaient aussi, il y a 3 ans, suivi cette batucada et qui m'ont proposé une soupe pendant toute cette déambulation qui va démarrer à Supagro à 19h pour arriver à la Jeunette Verte pour l'ouverture vers 20h-20h30. Donc ça va permettre aux gens qui n'avaient pas entendu parler du festival de s'apercevoir qu'il se passe quelque chose.
Il se passe quelque chose. Et est-ce que vous auriez à dire que certains films sont des immanquables sur cette sélection ou est-ce que tous sont à voir?
Je pense que ce qui... Sans donner de titre de film, ce qu'il faut comprendre, c'est que mis à part Babysitter, du coup, qui va sortir en salle, même si le film mérite d'être vu à Florac, c'est des films qui sont projetés qu'une seule fois parfois en France. Ouais. Donc, si le sujet vous intéresse sur le papier ou sur la bande-annonce, ne faut pas hésiter parce que vous n'aurez pas forcément d'autres occasions de voir le film, que ce soit en salle, mais même en ligne parfois. Ouais. Certains films vont être quasiment invisibles. Ça a été le cas dans les années passées de films qu'on a programmés qui n'ont toujours pas été projetés ailleurs. Donc ce qui est important, je sais bien que les gens nous disent toujours je peux pas tout faire, ils veulent tout faire, mais d'essayer de cibler par rapport au sujet qui les affectionne. Je pense qu'un des films qui devrait plaire notamment à notre public local, c'est L'Acte de la Beauté de Nicolas Paquette, puisqu'il traite de thématiques qui, on le sait localement, intéressent un certain nombre de personnes, qui a un documentaire sur une ferme qui est... un espace, une ferme qui a été achetée par un écrivain philosophe et qui fait tout pour qu'elle devienne, qu'elle n'appartienne plus à personne, et dans laquelle on va avoir à la fois de la cohabitation, des travailleurs saisonniers, etc. Mais c'est à la fois une ferme pédagogique, c'est à la fois il y a tout un état d'esprit qui est derrière, et Nicolas Paquette fait un portrait de ce personnage, de Jean Saint-Baudin et puis de ce lieu qui devrait voilà, en intéresser plus d'un. Donc ça, c'est le genre de film qui, évidemment, on le sait, sur les thématiques vont intriguer. Mais il ne faut pas hésiter à venir voilà, être un peu curieux et de se dire, tiens, je pense notamment à notre film d'ouverture, Le bruit des moteurs, qui il peut paraître étrange, mais qui reste une comédie et qui devrait en plaire à plus d'un. Et puis le réalisateur est assez génial et sera présent pour en parler. D'accord. Et puis après, on a des films comme Sin La Habana, qui sont des films sur lesquels on n'a pas d'invité, mais par contre, on a proposé à Ballet Bros de faire un partenariat.
Oui, l'idée, c'était de mettre un peu de danse associée au cinéma. Et du coup, à partir de ce film qui était dans la programmation Sin La Habana, donc l'histoire d'un couple de danseurs cubains qui ont envie de partir de Lille pour aller vivre à Montréal. Et donc, du coup, on s'est dit, OK, on va aller contacter Ballet Bros pour faire un atelier de danse autour de ce film. Et donc, le samedi matin, on pourra apprendre quelques pas de salsa avec Annie Hamzaoui, un danseur donc de salsa cubaine qui vient de Montpellier avec sa partenaire Charlène pour nous enseigner quelques pas de salsa. Et ensuite, on pourra essayer tout ça le soir lors d'une soirée salsa avec Morito et musique salsa cubaine à la cave du 25.
D'accord, un bon rendez-vous pris. Et le film de clôture, donc Crazy, qui est un film qui a cartonné mais qui a aussi eu quelques problèmes en ce qui concerne les droits d'auteur sur la musique.
Oui, faut savoir que les droits habituellement sont, je peux me tromper, mais je crois que c'est signé pour 7 à 8 ans d'exploitation. Donc généralement quand on sort un film, tout se passe bien, sauf que si, pour les personnes qui ont vu le Crazy, la bande-son est quand même essentiellement rock années 60-70. Et donc Pink Floyd, Rolling Stone, etc., c'est pas des droits qui sont super simples à renouveler. Et donc qui est arrivé au bout de l'exploitation, donc le film 2005 est arrivé en 2012-2013. Il y a eu des gros problèmes de renouvellement de ces droits-là, qui coûtaient très très cher, et le film est devenu invisible. Alors il existe en DVD, hein, on peut le voir même en location, en VOD, etc., mais on ne pouvait plus le voir en salle, et même au Québec, hein, et puis les choses ont enfin tourné différemment, et donc l'an dernier, il y a eu une restauration du film en 4K, le film est ressorti au Québec en novembre et les droits ont été achetés aussi pour la France. Le film va sortir mi-juin, le 15 juin. Donc là, c'est une copie neuve du film. Pour les gens qui n'ont pas vu le film, c'est presque le film québécois indispensable à voir contemporain, même si maintenant il a une bonne douzaine d'années, oui, c'est ça, avec Marc-André Grondin qui était venu à Florac. Un peu plus âgé, mais qui un film qui se déroule sur une vingtaine d'années dans une famille très catholique et d'un enfant qui cherche à s'affirmer, que ça soit sur son orientation sexuelle, sur ses amis, sur sa musique, etc. Et c'est une comédie qui a vraiment marqué, je veux pas dire des générations, mais en tout cas beaucoup de monde, un des plus beaux succès à l'international du cinéma québécois. Et là, le film est marqué d'une double actualité, puisque le film est ressorti en 4K et le 28 décembre, on a appris le décès de Jean-Marc Vallée, le réalisateur, qui est le réalisateur aussi de la série Sharp Object, de la série de Wild avec Reese Witherspoon, de Dallas Buyers Club, donc il avait pas mal fait de films aux États-Unis. Et il est mort subitement fin décembre, et donc il y a énormément d'hommages et de clôture de festival avec Crazy. On n'est pas les seuls à le faire. D'accord. Mais en tout cas, ça nous paraissait déjà bien de remontrer le film, parce que puis à la fois s'associer encore une fois au distributeur qui n'est pas les alchimistes, mais pour les accompagner aussi sur la sortie du film dans toute la France.
Alors juste pour moi, le fait qu'ils aient ressorti une copie neuve, ça veut dire que c'est reparti pour 7-8 ans de droit, ouais. Et après s'ils veulent refaire une... D'accord.
Voilà, mais en tout cas, oui, le film va pouvoir de nouveau être montré, en tout cas.
D'accord. Eh bien, on va passer aux infos pratiques maintenant. En ce qui concerne les passes, combien ils coûtent et comment ça se passe pour les avoir?
Eh bien, comment ça se passe? Il faut venir à la Jeunette Verte. Pendant tout le festival. Alors c'est mieux de les acheter au début, parce que l'intérêt du pass, c'est de pouvoir voir tous les films. C'est 35€ le pass. L'avantage, alors 35€ pour les adhérents. Les gens qui ne sont pas adhérents de la nouvelle dimension peuvent adhérer. Donc tout est inclus, ça fait 50€. Non seulement avec 50€, vous devenez adhérent, vous avez le pass, mais en plus, vous avez un abonnement sur notre ciné-club en ligne. C'est-à-dire que une grosse partie des films du festival vont être disponibles en ligne pendant une semaine. Et puis ensuite, chaque mois, sur ce ciné-club, on a 5 films québécois qui sont ajoutés. Donc ça fait à peu près 60 films par an. Et voilà, donc ça c'est pour le volet pass, qu'il soit à la fois en ligne ou en salle. On peut aussi acheter un pass que pour voir les films en ligne, si on ne peut pas se déplacer. Et puis après, on a un système de carnet de 3 places, 10 € ou les places uniques, c'est 6,50 €. Donc ça c'est les tarifs pleins, puis après il y a des tarifs réduits un petit peu moins chers. Et voilà, donc après il suffit de venir à Genève Verte. Et puis là on est en train de mettre en place, d'ici la diffusion de cette émission, ça devrait être mis en place, mais voilà, la possibilité d'acheter en ligne pour la soirée d'ouverture, la soirée de clôture et puis les passes.
D'accord.
Donc ça sera tout indiqué sur notre site internet.
Le Ciné-Club, ça fait combien de temps qu'il existe
Et bien ça fait un an, puisqu'on l'a lancé pour l'événement l'année dernière, pour le festival l'année dernière. Donc là on est à un an, 60 films programmés. Et puis on va espérer de continuer... plus longtemps, parce que c'est une plateforme qui je pense a encore un large potentiel, puisqu'elle vise toute la France. Ouais. Et qui aujourd'hui est connue encore par un trop petit nombre de personnes. Ouais. Mais donc le festival sert aussi de lancement et de visibilité, de vitrine pour ce ciné-club.
D'accord. Eh bien voilà, vous voulez peut-être rajouter quelque chose ?
Peut-être juste qu'en dehors du pass, on peut aussi acheter des places à l'unité, évidemment, qui sont au tarif de 6,50
c'est ça.
Pour les non-adhérents et 4,50 pour les adhérents. Je voulais aussi dire par rapport à la programmation qu'il y a le Club Vinland qui est vraiment le film le plus tout public, accessible pour des sorties en famille, pour aller tous ensemble voir le film, le samedi soir.
C'est ça.
À 20h30.
C'est ça.
Et également peut-être parler de Souterrain, qui est un film réalisé par une réalisatrice de la programmation, Sophie Dupuis, et qui là vient d'avoir un prix décerné par les collégiens. Alors, les collèges au Québec, c'est plutôt des 17-18 ans. Et du coup, ça fait 10 ans qu'il y a un prix qui est remis chaque année à un film québécois là-bas. Et donc, cette année, c'est Souterrain et on le diffuse donc jeudi soir à 20h30.
Non, c'est à 18h.
Pardon, 18h. À 18h.
Ah, ça faisait partie des 7 différences.
C'est ça.
C'est ça.
Et puis, du coup, ça permet de dire que voilà, ce prix collégial du cinéma québécois nous a inspiré aussi l'idée de l'exporter en France. Et donc là, on expérimente depuis... octobre avec 2 lycées en Lozère, la mise en place d'un prix lycéen qui devrait ensuite voir le jour sur toute la France, on l'espère l'année prochaine. Mmh. Et donc ils vont délibérer le mercredi et puis remettre leur prix juste avant la Batucada dont on parlait tout à l'heure. Il y aura un prix symbolique remis par les 2 lycées à un des 5 films qui étaient en lice cette année. Donc on essaye d'impliquer un petit peu les établissements scolaires aussi dans ces actions-là.
Et donc pour si jamais il y a des personnes qui veulent assister à cette remise de prix et soutenir les lycéens et lycéennes qui ont travaillé là-dessus. C'est donc à 17h à Supagro, juste avant donc la Batucada.
Ok. Eh bien, merci beaucoup. Merci Maëlle. Merci Guillaume.
Bien, merci.
Merci à vous, toi.
Donc, le Festival Vue du Québec, ça commence ce mercredi à Supagro, puis ensuite à la Genette. Allez donc à la rencontre du cinéma québécois. Un excellent festival à toutes et à tous et à bientôt.
Et merci beaucoup à toi, Véro. On se retrouve tout de suite avec JBD par téléphone. On écoute d'abord René Marviel, Photomaton et Batopie. Imagine
dans l'éternel combat sur le ring du Big Bang, disant que oui c'est Big, disant que non c'est Bang. Souvent c'est le mot court qui en dit le plus long. Jour, nuit, mal, bien, plein, nul, toi, moi, sexe, pur, oui, non. Exemple, prenons nom de consonne pareil, encadre enfermement une ovale voyelle. Ce O qui ouvre, oui, Rimbaud le voyait bleu. Entre ce oui, ce non, il n'est pas de milieu. Ce oui ondulatoire et ce non inflexible, uni à la façon de la flèche à la cible. Voulez-vous assister à l'un des pugilats? Le gong a retenti, il a donné le la. Sur le ring du Big Bang s'avancent les champions. Culotte blanche, oui, culotte noire, non. Depuis que l'univers est sorti du chaos, leur combat se poursuit de match nul en chaos. Sans que jamais l'un d'eux renonce à sa revanche. Culotte noire, non, contre culotte blanche. Le public à coup sûr est pour béni, oui, oui. Mais non, a sous le front une force inouïe. Il bouge à peine un bras quand l'autre virevolte. Qui des deux tirera le plus vite son colt? Oui ou non, non, oui. Le fin mot de nos bibles, l'ondulatoire, oui. Ou le non, inflexible, oui ou non, non, oui. Le fin mot de nos bibles, l'ondulatoire, oui. Ou le non, inflexible. Voilà ce que je veux dire. Un hypercute jaillit, c'est un vrai coup de foudre qui met oui au tapis, non, dresse son gant rouge. La salle est partagée, mi-sifflet, mi-tabac. Demain c'est décidé, je dis non au tabac. La salle est partagée, mi-sifflet, mi-tabac. Demain c'est décidé, je dis non au tabac. Oui ou non, non, oui, le fin mot de nos bibles. L'ondulatoire, oui ou le non. Inflexible, oui ou non, non, oui. L'ondulatoire, oui ou le non. Inflexible.
Ce n'est qu'un combat, continuons le début polémique, c'est la voix off. C'est chaque jeudi à 11h sur Bartas et nous sommes avec son concepteur JBD, bonjour.
Bonjour les amis, bonjour les auditrices et les auditeurs de Bartas. Vous avez vu, je fais dans l'écriture inclusive. Salut Ben, salut Corto.
Ben Meyer, merci d'être avec nous. Alors j'avais envie de t'entendre déjà parce que ça crée du lien entre nous, Radio Associative, et des personnes comme toi qui y participent et qui les font. Et puis que Polémique, c'est une émission surtout qui cartonne sur nos ondes, hein, très appréciée par nos auditeurs et auditrices, et qui a un certain regard sur la société. Alors t'as commencé vraiment, je pense qu'on a une petite idée de ta réponse, mais de façon globale, comment tu vis les choses sur tout ce qui se passe en ce moment ?
J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. L'humanité nous offre plein d'espoir. Sapiens, Sapiens, c'est vraiment une espèce intelligente. Et la science va nous sauver. Donc d'ailleurs, je crois que je vais faire des enfants. J'hésitais jusque-là, je dis est-ce que c'est une bonne idée ? Et puis finalement, non, l'avenir semble tellement radieux que j'ai envie de faire plein de gosses. Et vous ?
Ah ben nous, en tant que radio, ça va pas mal, parce qu'on a une team de bénévoles qui cartonnent, on a des gens qui... voilà, et puis on vit dans un coin, la Lozère, tu l'imagines, hein, qui est quand même assez fantastique. Pas coupé du monde, je dirais pas ça, mais en tout cas, qui a une certaine énergie et beaucoup de positif, ouais, chez nous.
Oui, j'adore votre coin, j'adore me perdre par chez vous, par la Haute-Loire, par la Lozère, par là. Voilà, vous habitez un endroit du monde merveilleux. Vous avez de la chance, battez-vous pour le garder tel quel.
Et t'inquiète pas qu'on se bat. Mais alors dis-moi, on diffuse là, en ce moment, tu as fait trois excellentes émissions sur le conflit en Ukraine. Pour toi aujourd'hui, est-ce que, d'après tout ce que tu as glané comme info, témoignage historique aussi, tu penses que ça peut s'arrêter ce truc ?
Écoutez, je suis plus malin que vous, en fait, hein, vous savez, je suis qu'un auditeur comme vous, un citoyen, un être humain comme vous, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal, je suis médusé, mais globalement, ta question, tu sais, me renvoie à ce que j'étais en train de dire, en fait, je suis qui pour ouvrir ma gueule ? Et cette question, je me la suis posée dès le premier confinement, et ma gueule, en fait, je l'ai bien fermée pendant un an et demi quand même. Hein, j'en ai entendu des bêtises pendant ce temps-là. Et ça m'a vachement perturbé dans, justement, voilà, notre rôle, nous, les radios associatives, c'est quoi ? Et moi, je suis JBD, voilà, simple lecteur du monde diplomatique, ayant fait un petit peu d'études. En fait, je suis qui, quoi, pour dire ? Enfin, bon, voilà. Et donc, tu me poses la question à moi, mais je sais pas, moi, je me vis plus dans cette émission comme un transmetteur de parole entre des gens dont j'estime qu'ils ont des choses intéressantes à dire, et voire même intelligentes, comme les copains profs d'histoire géo de l'émission, et je, voilà, André, Philippe, Cédric, Daniel, voilà, mais moi, j'en sais rien. C'est quoi ta question, Rodi ?
Non, mais en fait, je te posais une simple question sur si ça pouvait s'arrêter, mais...
Oui, c'est souhaitable. Je trouve ça tout à fait souhaitable. Moi, perso, j'ai pas envie de prendre un fusil pour aller défendre ces pauvres Ukrainiens. J'ai pas envie de me prendre un missile poutinien sur le coin de ma gueule. Donc ce serait bien que ça s'arrête. Et comme expliquait André l'autre fois, il ne s'agit pas de légitimer ou d'excuser, ou tu vois, mais de comprendre. Les Russes, ils sont vénères. Et ces pauvres Ukrainiens en font les frais. Mais pourquoi ils sont vénères, les Russes? Ils sont génétiquement méchants? Ou est-ce qu'il s'est passé des choses avant? Et est-ce que nos Poutines à nous, hein, qui sont plus polis que le Poutine de Russie, mais enfin, qui valent souvent à peine mieux, est-ce que nos Poutines à nous, on ferait pas mieux de s'en occuper avant d'aller regarder les Poutines des autres?
C'est d'ailleurs ce que tu dis dans une de tes émissions, hein, tu commences vraiment par ça. Les Poutines chez nous sont juste plus polis.
Et en même temps, en serrant le cul, les amis, en serrant le cul, parce qu'une fois de plus, je suis qui pour ouvrir ma gueule et commenter cette guerre que je vois sur écran? Je vois des pauvres gens, des Ukrainiens, des Ukrainiennes, des enfants, des tout ça, des réfugiés, des morts, des villes rasées. Et puis moi, en France, peinard, derrière mon ordi, je suis là, je commente la guerre et je dis, peut-être que le monde a le Poutine qu'il mérite, hein, on l'a peut-être bien cherché, le Poutine, mais quand tu vois des morts et des réfugiés sur ton écran, tu serres un peu le cul parce que tu dis, c'est facile pour moi, là, en France, peinard, au chaud, à commenter le... T'es qui pour faire ça?
Ouais, mais ce que j'aime bien aussi dans la série d'émissions que tu as fait, justement, c'est tenter de comprendre l'incompréhensible, en fait, et c'est ça qui est génial. Donc moi je dis pas que tu ouvres forcément ta gueule, mais en tout cas tu te poses des bonnes questions, et ça c'est intéressant parce que ça fait réfléchir. C'est comme ça qu'on commence à pouvoir voir un peu plus loin que le bout de notre nez. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah écoutez, oui, je peux. Je suis absolument pas d'accord avec toi.
Ah d'accord. mais t'as le droit. C'est...
non, mais ben oui, écoute, merci de me le dire. C'est du baume au cœur. Merci aux auditrices, aux auditeurs, animatrices de Bartas. De faire confiance à cette émission. Nous, on ne prétend pas avoir la vérité révélée et tout savoir sur tout. Effectivement, savoir se poser des questions, savoir ne pas gober les propagandes épouvantables qui nous sont assénées à longueur de temps. Voilà, essayer de prendre du recul. Mais cette période est très troublante, elle est très troublante notamment pour moi, pour vous, pour l'émission aussi, parce que ça a remis vachement... là, je viens de passer 25 ans, un quart de siècle à couvrir des manifs, des promenades syndicales où les gens perdent des journées de salaire à faire le tour de la ville, là où le préfet leur a dit de faire, hein, pour aller dans la rue, pour dire que le gouvernement, quel qu'il soit, qui se prétende socialiste ou pas, n'est pas gentil. Les infirmières, les cheminots, les profs, voilà. Et là, on arrive à autre chose. Enfin, l'émission, elle se dit, voilà, 25 ans de promenade syndicale, et on en est où, là? Alors, peut-être que ça a ralenti le processus, hein, de destruction de la société, des machins. Je voudrais vous faire part d'un truc que j'ai commencé à, sur lequel j'ai commencé à travailler cette semaine, mais malheureusement, c'est tellement énorme, tellement monstrueux, mais monstrueux, les amis. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai une tendance à la caricature et à l'exagération, des fois, pour porter le... Oui, non, mais voilà.
Ça fait arriver.
C'est un grand tort. Ça me dessert parce que... Mais bon, des fois, les émissions, elles durent qu'une heure, et des fois, il faut utiliser des images... Enfin, je pense qu'il faut utiliser des images fortes pour faire passer une idée rapidement, quitte, à la dévoyer ou à la grossir un peu. Mais là, ce dont je veux vous parler, moi, je suis terrifié depuis le week-end dernier. Je suis terrifié, traumatisé, parce qu'on a vraiment basculé, là, en France, dans autre chose. Je voudrais vous parler de l'eau.
Oui.
L'eau.
Dont on diffuse la première émission aujourd'hui, d'ailleurs.
Oui, voilà. Samedi dernier, samedi 26 mars, je suis allé avec quelques milliers d'autres personnes dans les Deux-Sèvres, dans le département 79, pas très loin de New York. Voilà. Où il y a là-bas une espèce de truc qui n'est pas un prototype, qui n'est pas expérimental, parce que voilà, c'est une technologie stupide. Mais comment vous dire, cette énormité, il va vous falloir du temps pour comprendre ce que je vais vous dire. Mais imaginez qu'un jour, prochain, vous ouvriez le robinet et que aucune eau n'en coule. Pas d'eau au robinet. Ou alors de la merde. Toxique. Pas traitée, pleine de médicaments, je sais pas quoi. Enfin, comme elle est déjà un peu de toute façon.
C'est l'eau. Sûr.
Écoutez, pas d'eau au robinet, c'est un truc qui nous pend au nez, là, en France. Parce que des tenants de l'agriculture industrielle ont décidé, pour faire du maïs, plante pas du tout adaptée à nos tropiques, hein, c'est une plante tropicale de maïs qui nécessite beaucoup d'eau, du maïs destiné à nourrir des bestiaux, des animaux, donc type ferme de 1000 vaches, etc. Hein, c'est pas des gentilles vaches avec une cloche au cou qui baladent comme dans vos coins. Vous avez entendu parler de ce que c'est la ferme des 1000 vaches. Imaginez qu'une poignée d'exploitants agricoles industriels pillent et fassent disparaître l'eau contenue dans les nappes phréatiques pour faire du maïs qui va aller se vendre sur les marchés mondiaux. C'est ce qui est en train de se passer. C'est l'agriculture qu'ils ont déjà développé pendant ce qu'ils ont appelé les 30 glorieuses, hein, qui étaient les 30 abominables où on a tout saccagé. Et là, ça continue. Ça continue. Des gens sont en train de piller et de faire disparaître un commun, une ressource commune et surtout vitale, qui est l'eau. Des gens sont en train de s'approprier et de faire disparaître un bien commun sans lequel on ne peut pas survivre. Combien de temps vous pouvez tenir sans boire? Alors, rassurez-vous, comme le capitalisme triomphant pense à tout, dans la mesure des stocks disponibles, hein, parce que cette eau, elle va disparaître, elle va se retrouver polluée, je doute pas que Nestlé, Coca-Cola ou je sais pas qui pourra vous en vendre de l'eau potable, dans la limite des stocks disponibles. Hein.
C'est sûr. Voilà. C'est d'ailleurs, c'est le PDG de Nestlé qui avait dit en 2005 que l'eau était un bien de consommation comme un autre et qu'à ce titre-là, il méritait d'être vendu comme un produit normal, quoi.
Mais ces gens qui sont fous seraient même capables, et d'ailleurs c'est déjà à moitié le cas, de privatiser l'air qu'on respire. ils n'ont pas encore trouvé la technologie, mais je suis sûr qu'ils y pensent. En tout cas, là... Voilà, de ce que j'ai compris, je sais que c'est dur intellectuellement à moi-même, pendant que je vous parle, je n'arrive toujours pas à concevoir l'horreur intégrale que représente cette histoire. Mais nous avons d'ores et déjà basculé dans un monde terrifiant où tout simplement on se bat déjà pour de l'eau sur cette planète, mais là maintenant c'est en France. Et l'eau, comme vous le savez, est un cycle. Source, rivière, fleuve, océan, ciel. Hein, c'est une boucle, vous avez bien compris. Et quand vous faites sauter un maillon de la chaîne, vous cassez la chaîne, vous cassez la boucle. C'est-à-dire que là, le monde immédiat qui se prépare, dans lequel on vit déjà des pénuries d'eau, des sécheresses, des restrictions d'eau. Bon, pas l'an dernier, on a eu un été pourri. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que l'Europe et le Maghreb étaient à feu. Pas à sang, mais en tout cas à feu et à inondation. Nous, on a été préservés en France. On est bénis, on a été bénis pour ça, même si on a eu un été de merde. Mais... voilà les amis, écoutez, je suis en fait bouleversé parce que je suis en train de vous dire, mais nous avons basculé dans ce monde-ci, quoi, où un jour on va ouvrir le robinet et il n'y aura pas d'eau au robinet. Moi ça me touche particulièrement parce qu'à Tours, en 1986, Tours région centre, Indre-et-Loire, sur la Loire, un matin de juin, comme ça, je me suis levé pour aller faire mon café, j'ai ouvert le robinet et un mince filet d'eau en a coulé et puis plus rien. En fait, ils avaient coupé les robinets parce qu'une usine chimique qui s'appelait Protex avait déversé des trucs chimiques dans la Loire et plus d'eau. Je vous jure les amis, hein, ça n'a duré que quelques semaines, mais d'un seul coup, la vie n'est plus la même. Tu tires ta première chasse d'eau, tu vois, et puis elle n'a plus. Et tu vis sans chasse d'eau pendant des semaines. Alors oui, hein, chiotte sèche, etc., on a trouvé ça depuis. Mais imaginez 5 secondes une existence sans eau, quoi. C'est pire sûr que ce qu'on a déjà connu. Voilà, écoutez, c'est ça dont je vais vous parler là, dans les épisodes à venir, parce que c'est vraiment un truc fondamental, vital, et c'est tellement énorme, Que comment le concevoir, quoi. Et je m'en suis rendu compte là, en discutant un petit peu, en rentrant de cette manif contre les méga bassines. Hein. Allez sur Google, allez dans votre moteur de recherche préféré et tapez méga bassines. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et, bon, alors je vous dis juste en deux mots, c'est quoi les méga bassines? Bah, ces exploitants agricoles industriels qui veulent irriguer du maïs, ils construisent en fait des espèces de piscines pourries de 3-4 mètres de profondeur. Ça peut faire plusieurs terrains de football de superficie. C'est bâché avec du liner, donc c'est des bassins de rétention d'eau, et à côté il y a des pompes, et les pompes, elles pompent directement dans les nappes phréatiques qui sont déjà déficitaires aujourd'hui. Là, au moment où je vous parle, en ce printemps, il y a des nappes phréatiques qui sont déjà en seuil critique. Et bien ces gens qui s'accaparent l'eau, qui la privatisent pour faire du profit privé au détriment de tous, de l'existence de tous, ces gens sont en train de puiser dans une ressource qui est déjà en stade critique. C'est-à-dire, quand je vous dis on va ouvrir le robinet et machin, c'est pas... C'est-à-dire, quand je vous dis on va ouvrir le robinet et aucune eau n'en coulera, c'est pas dans 15 ans.
C'est clair.
Non, c'est... Bah non, c'est ça le problème. C'est ça, le problème. C'est pas si clair que ça. Parce que le crime est tellement monstrueux, c'est tellement énorme, on va vous priver d'eau.
Ouais, c'est un truc de fou. Méga bassine, en tout cas. Le premier épisode est déjà disponible sur polemixetlavoixoff.com. C'est sûr que ça fait vraiment flipper. Un sujet qui a à voir, et sans trop avoir, quid de la liberté d'expression en France, à ton avis?
Bah écoutez, là, on est en train de se parler sur une radio libre. Hein.
C'est sûr.
La police n'est pas en train de te bourriner à ma porte ni à la vôtre. On n'est pas dans la Russie. On n'est pas dans la Russie de Poutine, hein, c'est sûr. Donc oui, on peut s'exprimer en France, nous, avec Polemix et la voix off, quand on faisait une activité satirique ou des émissions comme celle qu'on fait là, personne ne nous a jamais rien dit. Mmh. Si il y a eu une vague, mais un truc comme j'ai jamais vu, et que j'ai laissé à titre indicatif sur le site internet de l'émission, donc Polemix et la voix off.com, je reviens très rapidement sur les antivax.
Oui. Hein,
que j'ai laissé dans mon entourage immédiat et un peu partout, que j'ai laissé s'exprimer parce que je suis pour la liberté d'expression. Et en fait, moi, je suis pas médecin, je suis pas épidémiologiste, donc en fait, quand je sais pas, je ferme ma gueule. Ce que beaucoup d'antivax n'ont pas fait, d'ailleurs. Hein. J'ai été stupéfait de découvrir qu'autour de moi, il y avait des spécialistes des épidémies, des gens qui apparemment avaient étudié la pharmacopée ou la médecine pendant 25 ans, parce qu'ils semblaient avoir des avis très catégoriques et très arrêtés sur ce qui nous est arrivé avec ce Covid-21. Je suis hyper en colère de ça. Et si la seule vague en le site internet existe depuis 2006, je crois, 2002, je sais plus. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Des volets de messages anti-vax concernant les trois émissions qu'on a faites là sur le thème, hein, c'est-à-dire avec une infirmière urgentiste, avec des infirmiers, des soignants syndicalistes de l'hôpital qui sont au front depuis plus de 2 ans. Hein, à affronter parfois à main nue cette épidémie de Covid, machin. Et puis mon pote le pharmacien, là, hein, le valet de Big Pharma, hein, enfin bon, qui a quand même fait 6 ans d'études de la médecine, de la pharmacie, plus son expérience, qui nous dit ce qu'il pense. On s'est pris une volée de messages anti-vax sur le site internet, mais allez voir, c'est un poème. Je les ai tous gardés, je les ai tous laissés, parce que je trouve ça sidérant, quoi. Je trouve ça absolument sidérant. Et là, tu parlais des radios libres, de la liberté d'expression, etc. Moi, j'ai passé et je continue à passer un très mauvais moment parce que je me dis, en fait, moi, pour ouvrir ma gueule au micro sur Bartas, je suis qui?
Mais justement, tu le dis, comme tu dis, tu es un citoyen, tu es engagé, et qui plus est, tu fais un travail de journaliste aussi. Donc, encore une fois, t'affirmes pas, tu te poses des questions.
Je sais pas si je fais un travail de journaliste, en fait, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis plutôt un transmetteur de parole. Journaliste, c'est pas ce que je fais, honnêtement. Un journaliste fait vraiment de l'investigation, va chercher des sources, les recoupe entre elles, éventuellement prend des risques, etc. Je vous avoue que je fais rien de tout ça, vraiment.
Non, oui, tu donnes la parole et le pluralisme d'opinion aussi.
Voilà. Je me vis vraiment comme un animateur. Hein. Je suis un enfant de l'émission de Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
Bien sûr.
Mermet a beaucoup théorisé, hein, sur les journalistes, les animateurs, les chevaliers de la radio que nous sommes, parce que nous, on défend une radio libre, populaire, qui se veut intelligente, mais bon, ça, c'est aux autres de le dire. Voilà. Et journaliste, en fait, je crois que j'ai beaucoup trop de respect pour le métier de journaliste, et il est tellement peu pratiqué en France, en tout cas dans les médias dominants, que je me garderais bien de me prétendre journaliste. J'ai une très haute estime de ce métier et je ne pense pas que ce soit celui que je pratique moi, mais je ne pense pas que ce soit celui pratiqué non plus par Nicolas Demorand, Léa Salamé, Patrick Cohen et compagnie. Je parle même pas des gens qu'on peut entendre ululer sur BFM ou je ne sais pas quoi, que je n'écoute pas et que je ne regarde pas de toute façon. Mais voilà, journaliste, je ne sais pas, être humain qui essaye de faire société et qui essaye de faire fonctionner son cœur et son cerveau, ouais. Et puis des fois on doit dire des conneries dans cette émission aussi, des trucs erronés, des fois on se plante, enfin, je veux dire, on n'est pas des dieux, on ne sait pas tout, quoi. Mais bon, je sais que c'est une notion intellectuellement fluctuante, mais on s'efforce dans l'émission là, avec les potes profs d'histoire géo et tout ça, on s'efforce d'être des gens, attention, hein, je veux dire un grand truc, ouvrez les guillemets, intellectuellement honnêtes, fermez les guillemets. Alors, c'est très relatif, hein, l'honnêteté intellectuelle, mais c'est à ce à quoi on s'efforce, quoi. Et chaque semaine, d'ailleurs, enfin, c'est aussi une gratification de se dire, bon, bah, les auditrices, les auditeurs et l'équipe de Bartas nous font confiance, quoi. On est dans une relation de confiance.
Ah oui, ça c'est sûr.
Et ben c'est chouette. Merci, merci à vous toutes et tous, les amis. Parce que si l'émission elle existe aussi, c'est parce que des gens l'écoutent et la diffusent. Si Bartas n'était pas là, si les gens qui sont de l'autre côté du poste n'étaient pas là, ben, il n'y aurait pas d'émission en fait. Cette émission, c'est vous qui, en l'écoutant, la commentant, des fois en n'étant pas d'accord, la faites vivre. C'est beau ce que je dis.
Ouais, c'est absolument beau. Magnifique et c'est sur ces mots.
Je crois que j'ai une semi-érection.
J'adore. Cet excellent programme, c'est tous les jeudis à 11h sur le 107 ou sur polémique, c'est la voix off.com. Merci beaucoup, JBD.
C'est tout, ça y est, c'est fini.
Ouais, voilà. Déjà, le temps passe super vite avec toi. Mais par contre, tu viens nous voir ici en Lozère quand tu veux.
Ouais, je crois que je vais faire ça un jour. Hein.
Tu mets vraiment.
Parce que j'adore, voilà, enfin bon. Je me sens tellement bien quand je vadrouille par chez vous.
Bah, tu viens quand tu veux, et là, on prendra vraiment le temps en studio. Mais on pourra même passer 3 heures si tu veux. À essayer de refaire le monde et de le refaire bien, qu'est-ce que t'en penses ?
Ben, j'en pense que la Lozère, c'est vraiment historiquement, ben, je vais pas vous enseigner votre propre histoire, vous la connaissez mieux que moi, mais voilà, qu'est-ce que j'aime la Lozère et ses gens, et qu'est-ce que c'est agréable à l'occasion, quand tu te balades dans la campagne comme ça, et tu vois des vaches qui ont encore des cloches au cou. Et là, tu pleures, quoi. Tu pleures de bonheur, tu te dis, putain.
Eh ben, tu viens quand tu veux, on t'accueillera comme on sait le faire ici, avec énormément de plaisir. À bientôt, JB.
Salut les amis, je vous embrasse.
Salut, ciao, on t'embrasse aussi.
Attends,
ciao.
Je vous embrasse toutes et tous. À trop bientôt.
Salut, à bientôt, ciao. Et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Portez-vous bien. On se quitte avec Marielle, la valsa. À mercredi. Ciao.
À humain, l'humanité manifeste en valse et doucement tendue. Quelque part à Paris, sur la scène à minuit. Quartier des bruits, troquet perdu. Il y a des zigues dedans, padapanam. Ça joue la java d'adam, balajoman. Prolo, julou, marlou. Gigolet, apache, dactylo, mimi, pinson. Ça rume, rume à leur improviser. Les mettent avec leurs cibiches tendues. Délicatement se poser, pas un air. Tu verras, tu véridique. Et de quasi a fait des lots de minage. Bouscatel à pégu, des câbles accordéon. D'altérita. Pas de mystère à terre du Grand Nord au Gabon, de Chine à Zanzibar, le Gézamar. Il souffle universel, l'étrange et la cadence. Tizi, les traits d'union de Madagascar à Saint-Domingue et du Cameroun-Zanté. Allié la tombe à l'Estégal, Founan, un merengue, tu sais. Paisanos, Amérique, du Mexique, au Brésil, du Québec, à Louisiane, en Colombie. Chamamé, charanga, foros, ideco blues. Ardest, à l'ouest de Bayona, l'Ural d'Italie, des Zingal, Burgano, Manovitz. Il trixi, trixi, tarantere, la zendi, jazz, la jazz. J'allume, j'allume l'exode, accordez-vous malheur à l'heure industrielle. La rue en chemise à vos oiseaux, turbine, cadence parfaite, une enfant d'elle. Y'a plus de gig, nawan, malapanam, ça fait du fric à madame, le macadam. Chez les spéculateurs, les provoqueurs, les polyfricards, les marchandises. Humain, mes universités, depuis tout petit la société. Les colibris sonnières à l'air à faire à leur chanson, faire une enfant phare. Les vents pour les lunaires des buts, tant pis, vache, mais gravache, Pauline, achève pas d'engager rêve, elle libère ta. I want such sus coming, stefremit, alucat, las memories, escutat, luz arrius, aigues burlades, de bus, luz ainats, las putes morem, de l'angatia, amassat, tal escriu, pluralitat, ma, Agume à l'humanité, manisait pas si futur du m'entendu. En banlieue, c'est la nuit du vide après-midi, les mots dans un couplet perdu. Sa tangue et phrase à la mer, pas d'état d'âme. J'avais du rap à l'amour, bagarre à l'âme. Chez les loulous marlous, les paumés, les immigrés, sèvres et sans papiers. Agume, agume, alors improvisez vos tours de minuit, l'enfant d'âge. Pour que le balsalise et vienne à l'utoping et penche à l'ouvrage. De quasi d'abédé, de sous-mois, de bambou, 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 de